Le grain de sable. Pensée globale. Une mission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonjour, on reçoit Pierre du comité Vigilance 69 pour faire un petit peu un point sur tous l'extrême droite, tous les groupuscules identitaires et autres qui sont assez actifs sur Lyon en ce moment.
Bonjour.
Alors oui, voilà, on va régler les problèmes de micro. Juste déjà pour présenter un petit peu ce qu'est le comité Vigilance 69. Donc c'est un réseau.
Alors donc le collectif de Vigilance 69, c'est un réseau de diverses associations, partis politiques, syndicats lyonnais, donc qui se sont regroupés donc au sein d'un collectif. Donc c'est très large. Ça part du Parti socialiste jusqu'au groupe anarchiste. Donc en passant par divers syndicats, CGT, Sud, la CNT, voilà, et le Front de Gauche. Gauche unitaire, enfin voilà, donc c'est vraiment un panel très très large.
Est-ce qu'il y a des associations aussi?
Oui, bien sûr, on est très très large, donc comme il y a aussi bien des associations que des partis politiques, que des syndicats, vraiment tout, il y a un panel très large.
Il y a ATTAC en fait partie.
ATTAC en fait partie.
RESF aussi.
ATTAC, RESF, pour ce qui est de l'ordre des associations, Ralfron aussi. SOS Racisme, je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'en oublie certains, ils m'excuseront.
Ça a été créé, c'est national, c'est que sur
Lyon. Alors non, le comité de Lyon 69 est lyonnais, vraiment. Des initiatives similaires existent dans d'autres villes. Donc il y en a un qui vient de se monter, notamment à Grenoble.
D'accord.
Donc c'est une initiative qui est en train d'être prise. À Rennes aussi existe une initiative du genre. Donc voilà, ça débute, hein. En France, il y en a pas encore énormément de collectifs du genre. Après à Lyon, on pense que c'était assez important, quoi, parce qu'il commence à avoir beaucoup de problèmes. Et je pense qu'il est important de s'unir pour réfléchir et pour agir face à l'extrême droite.
D'accord.
Justement, les objectifs et les modes d'action particuliers, ou ça dépend vraiment des circonstances?
Exactement, ça dépend des circonstances. Donc, on essaie d'être assez réactif. Donc, par le biais de communiqués de presse, quand vraiment l'actualité le veut. On a organisé beaucoup de choses, hein, donc des manifestations, forcément. Des rassemblements, donc notamment quand il y avait eu le local néo-nazi dans le quartier de Gerland, le comité Juin 69 a pris en charge un petit peu le problème, donc on a organisé un rassemblement devant la mairie du 7e. On a aussi organisé donc l'année dernière au mois de mars une grosse journée au CCO à Villeurbanne avec des réunions, des débats toute la journée avec un gros concert le soir. Voilà, on est assez actif et surtout on essaie de se diversifier sur les modes d'action, puisque voilà, il n'y a pas un mode d'action qui est plus important que les autres. L'important c'est d'essayer d'être présent un petit peu de partout
et toucher les gens. C'est vrai que moi j'ai vu, je crois il y a 10 jours, où il y avait une petite manif et de la distribution de tracts justement devant l'hôtel de ville là, à Place Pradel, pour expliquer.
Oui, tout à fait.
Pour toucher les gens aussi qui seraient pas forcément déjà dans des assos ou dans des réseaux, quoi.
On pense que c'est très important déjà d'aller sur le terrain aussi de l'extrême droite, donc ne pas avoir peur d'aller dans les endroits où eux ont l'habitude d'être, et c'est surtout aussi très important d'aller auprès des gens, parce que bon, bah beaucoup de gens ne se rendent pas forcément compte des choses qui se passent, parce que c'est vrai que ça reste assez peu relevé médiatiquement, mais malgré qu'il se passe des choses quand même assez horribles. Donc nous, on pense que voilà, c'est important d'aller aussi occuper la rue, mais par des tracts pour informer les gens, de differ dans les boîtes aux lettres, d'aller vraiment à la rencontre des gens. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui, au final, ne connaissaient pas le comité de Jean 69 ou n'étaient pas plus antifascistes que ça. Et puis finalement, ils se sont rendus compte de ce qui se passait réellement. Et maintenant, des fois, c'est des personnes qui nous avaient dit qu'ils étaient jamais venus forcément à l'investigation et qu'on retrouve maintenant. Donc on pense que ça, c'est très très important. D'ailleurs, l'extrême droite n'hésite pas à le faire. faire. Donc,
C'est vraiment un rôle de faire connaître, parce qu'il y a peut-être des gens qui s'imaginent, on parle d'agression, mais c'est des cas isolés, et dire que, attention, c'est beaucoup plus grave que ça.
Tout à fait, tout à fait. C'est surtout le... Alors, on peut faire un lien, en plus, actuellement, avec la Grèce. Donc, c'est assez médiatique en ce moment, de plus en plus. Donc, il y a un parti qui s'appelle l'Aube Dorée, en Grèce, qui a accédé au Parlement. Ils ont 7 ou 8 députés, je crois. Et en fait, les méthodes de l'Aube Dorée, c'était justement ça, quoi. C'était des actions de rue. C'était d'être très violent envers les militants de gauche et envers les immigrés. Mais donc, voilà, ils ont commencé par occuper la rue. Ensuite, ils ont fait des repas populaires type soupe au cochon du Front National. Et au final, ils ont réussi à accéder au gouvernement. Et on a vu ça aussi, on a pu voir ça en Autriche. On a pu voir ça dans beaucoup de pays européens. En Italie, où l'extrême droite est en train de beaucoup remonter. Donc on se rend compte qu'en fait les méthodes qui sont utilisées par les groupuscules d'extrême droite en France sont à quelque chose près les mêmes que dans nos pays voisins, et dans nos pays voisins l'extrême droite monte. Donc nous on pense que justement voilà, ce sont pas des cas isolés ces agressions, d'une part parce qu'il y en a beaucoup, et d'une autre part parce que c'est simplement voilà le début pour nous de la montée extrême droite.
Parce qu'en Grèce il me semble qu'il y avait aussi un soutien financier, c'est-à-dire qu'ils avaient aussi toute une organisation, ils s'étaient mis à faire un petit peu du social entre guillemets et distribuer un petit peu de l'argent ou des soutiens, et ce qui fait que les gens qui n'étaient pas forcément politisés, mais ils étaient tellement dans la merde et dans la crise en disant bah au moins voilà, ça c'est concret et on y va, et puis je m'assois un peu sur peut-être
exactement, il suffisait de devenir muni d'une carte d'identité grecque pour prouver sa nationalité grecque, pour pouvoir bénéficier des aides donc de l'Aube Dorée et des associations gravitant autour de l'Aube Dorée, parce que ça, l'extrême droite aime bien le faire aussi, c'est créer une multitude d'associations qui n'ont rien à voir avec la politique, mais qui sont ce qu'on appelle la métapolitique, mais qui sont gérées par les partis.
C'est sous-jacent, il y a plein de trucs souterrains qu'on voit
ça,
pas forcément.
C'est une des grosses. Donc j'invite les gens à aller faire un tour sur le blog du comité Jean 69. On avait sorti donc un tract qui est juste ici, que nous avons sous les yeux, qui s'appelle La Nibuleuse identitaire. Et ce tract l'explique très très bien, parce que voilà, le but c'est de créer une multitude de choses pour rassembler, finalement faire de la politique sans en faire.
Oui, ou attirer les gens, parce que je vois par exemple, il y a la sphère sportive. Exactement. C'est vrai que voilà, par je sais pas, les arts martiaux, par certains trucs, on peut rameuter des gens et après
exactement, ils ont créé aussi un club de moto, ils ont fait aussi des maraudes pour aller distribuer à manger aux sans-papiers, etc. Finalement voilà, c'est aussi ça qui permet un petit peu de se développer, et surtout tout de suite voilà, on entend identitaire, donc c'est très choquant, donc eux ils veulent faire passer ça, bah oui bon, on est des gros racistes, faut peut-être pas qu'on arrive comme ça vers les gens, donc du coup ils arrivent d'une manière différente, et puis petit à petit ils arrivent là où ils veulent.
Oui, oui, plus masqué, c'est plus simple.
Exactement, ils avancent masqués.
Donc cette espèce de rôle d'alerte et de dénonciation, donc par rapport donc aux gens avec les manifs et tout ça, mais est-ce qu'il y a aussi un rôle d'alerte et de dénonciation auprès des pouvoirs publics, de la mairie ou des ministères sur certaines choses?
Ben, c'est-à-dire que nous, on a c'est une chose qui porte souvent souvent débat, mais comment dire? Quand nous avons accès à toutes ces informations, etc., à ce que fait l'extrême droite, etc., nous, on part du principe que de toute façon, les services publics le savent eux aussi. Donc, finalement, on ne sait pas s'il y aurait vraiment un grand intérêt. Donc, bien sûr, on interpelle, parce que quand on fait, quand on fait,
s'ils savent qu'est-ce que vous, et après qu'est-ce que vous faites
avec c'est vis-à-vis des services publics, vous voulez dire?
Oui, oui.
Nous, de toute façon, on a, à part pouvoir les interpeller, derrière, on peut rien faire d'autre, hein, parce que, bah voilà, on n'est pas décisionnaire. Donc nous, évidemment que quand il y avait un local néo-nazi, là, on a interpellé les pouvoirs publics en disant, il n'est pas normal que à tel endroit il y ait des nazis qui font des soirées, etc., qui récupèrent de l'argent grâce à ça, qui font énormément de choses, qui font de la propagande. Donc là, on n'est pas d'accord. Donc on est parti devant la mairie, là, effectivement, pour interpeller le maire du 7e et le maire de Lyon pour dire voilà, ça c'est pas normal, il faut que ça cesse, il faut qu'un local pareil ferme. Après nous on pense aussi qu'il est plus important de toucher les gens, de révolter les gens, et que par ce biais-là, au bout d'un moment, forcément les pouvoirs publics devront aussi intervenir, quoi.
Donc là, ce local-là, par exemple, du coup, il avait été fermé.
Ce local-là a été fermé, oui, tout à fait. Ouais. Quelques mois après la manifestation, d'accord, enfin le rassemblement.
Parce que du coup, on en parlait avant, il y a un autre local, la Traboule.
Tout à fait, à Saint-Jean.
Voilà. Et donc, tu nous disais qu'il y a eu d'autres locaux comme ça dans d'autres villes à Toulouse et à Lille et qui, par contre, ont été fermés.
Oui, voilà, tout à fait, ont été fermés. Notamment le dernier en date, le local de Toulouse. Qui s'appelait, j'ai oublié le nom, enfin peu importe, c'est pas forcément très intéressant. Et donc du coup il y a eu beaucoup d'initiatives populaires. Donc encore une fois, voilà, là on pense que les pouvoirs publics ont bougé, c'est parce que les gens ont bougé physiquement dans la rue en disant non, c'est pas normal, on peut pas tolérer un local comme ça en bas de chez nous. Et donc du coup les habitants et les habitantes de Toulouse se sont vraiment mobilisés contre. Donc au bout d'un moment, de toute façon, la mairie n'avait plus trop le choix que de fermer. Et en plus, s'en est suivi de plusieurs agressions assez violentes, justement faites par les gens qui tenaient ce lieu. Donc voilà, je pense aussi que c'est ça a beaucoup joué dans la balance.
Donc on parlait des lieux, là tu viens de parler d'agressions. Est-ce qu'il y a des chiffres? Parce qu'on peut dire un lieu, bah, ils ont bien le droit d'être quelque part. Mais après, c'est les autres types d'actions qui peuvent aussi
tout à fait.
Se développer autour de ces lieux.
Tout à fait, parce que voilà, on sait que déjà les gens qui se retrouvent dans ce genre de lieu, de toute façon, eux, ils essayent de mettre une image, voilà, on s'ouvre, on est ouvert, on veut qu'il y ait tout le monde qui puisse venir dans notre lieu, etc. Non, on sait que clairement, voilà, faut être blanc, etc., pour pouvoir accéder. Et de toute façon, voilà, ceux qui sont à l'intérieur, ça a été prouvé à plusieurs reprises, hein. Il y a pas mal de sites internet qui ont développé sur le sujet. La plupart des trésoriers, présidents, etc., ont tous été inculpés dans des histoires de violence, etc., des violences liées à la politique, hein. Donc voilà, on sait très bien tout ce qui se passe autour de ce genre de locaux, hein. La personne qui tenait le local à Toulouse a été inculpée plusieurs fois pour violence. Et la dernière agression en date, il a frappé à coups de batte de baseball un étudiant chilien qui est resté hémiplégique. Donc voilà, à Lyon, c'était après la manifestation en 2011, à la fin de la manifestation antifasciste, à la fin de la manifestation, il y a 5 personnes qui sont fait agresser par des gens qui descendaient du local de la Traboule. Et il y a une personne donc qui a pris plusieurs mois de prison pour l'agression après avoir fracturé la mâchoire à coup de manche de pioche d'un passant, parce que voilà, ils étaient pas à leur goût. Je me rappelle plus de l'agression exacte, mais bon, voilà, en gros, ils leur ont demandé s'ils étaient gauchistes, etc., machin. Les autres leur ont dit, mais voilà, laissez-nous tranquilles. Puis ça leur a pas plu, donc ils sont rentrés dedans.
Très très violentes.
Très très violentes. Et puis le jour du procès, clairement, ça a été défini comme quoi les agresseurs descendaient du local. Donc et après la bagarre, sont re-rentrés dans le local. Enfin après la bagarre, après le lynchage, hein, parce qu'il n'y a pas eu bagarre. Ils ont simplement agressé, quoi. Donc voilà, c'est le plus dangereux, et c'est évidemment tout ce qui se passe autour. Le local en soi, il n'est pas là le problème. Le problème, c'est que c'est un local fasciste tenu par des fachos qui font des actions violentes et qui font de la propagande de haine. C'est ça le problème. You don't believe that. Just to keep our unhappy home, I'm gonna try to pretend that I do. And I'm breaking down, I'm breaking down, I'm breaking down, I'm breaking down. My baby, she left me, said she ain't coming back around. And I'm breaking down. Oh, I'm breaking down. And if I thought that it was okay for a grown man to cry, I would have filled up the whole mighty ocean when she said goodbye. And I'm breaking down. She left me, she said she ain't coming back around. I'm breaking down. Oh, one day you said everything was just right. I don't see how.
say it's been wrong all along.
Après Ben Harper, on se retrouve sur le grain de sable sur Canu avec Pierre du collectif Vigilance 69 contre l'extrême droite. Donc on a un peu parlé justement du rôle principal qui est de faire connaître des choses qui disent pas forcément leur nom, qui essaient de se banaliser alors que ce sont des groupes qui se multiplient et un peu décryptés. Tu disais on parle d'identitaire mais on sait vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est juste des jeunes qui ouvrent des locaux pour
C'est ça tout à fait. C'est que souvent il y a énormément d'amalgames qui sont faits, donc notamment dans pas mal de reportages ou dans beaucoup de quotidiens, dans la presse quotidienne, etc. Beaucoup d'erreurs qui sont faites. Il existe plusieurs groupes d'extrême droite présents sur Lyon, dont les identitaires font partie. Mais c'est vrai que maintenant les identitaires, on le remet un petit peu à toutes les sauces. Donc du coup, voilà, brièvement, c'est un petit peu donc la question en off. Il y a les différents groupes qui sont vraiment actifs sur Lyon actuellement. Donc il y a trois mouvements dits de jeunesse, qui sont les jeunesses nationalistes, donc qui sont dirigés par Alexandre Gabriac, qui s'était rendu célèbre en fait pour s'être fait virer du Front National à cause de sa lune nazie.
D'accord.
Que lui, dans un premier temps, avait dit c'est pas moi, c'est un photomontage, etc. Ensuite, d'autres photos de lui, le bras tendu, sont apparues. Donc là, il s'est repris en disant mais c'est un salut fasciste à la gloire de Benedito Mussolini. Donc bon, finalement, il a fait un petit peu machine arrière en disant non, mais c'est pas nazi, c'est fasciste, etc. Donc ça, ce sont les jeunesses nationalistes qui sont la branche jeune de l'œuvre française. Donc qui est une l'œuvre française qui est présente à Lyon aussi. Donc dont le nouveau président est Yvan Benedetti. Donc l'œuvre française, c'est il y a beaucoup de gens de l'œuvre française faisaient partie de l'extrême droite du Front National. Donc qui ont été pour beaucoup virés lorsque Marine Le Pen est arrivée à sa tête.
Où elle a voulu mettre un petit peu des gens qui passent mieux.
Exactement. Donc ça c'est l'œuvre française, c'est un mouvement pétainiste. Et qui sont qui étaient un petit peu des gens on va dire cinquantenaires, soixantenaires, et là donc la branche jeune qui a été créée donc par Alexandre Gabriel, qui sont les jeunesses nationalistes. Et là on a aussi le GUD. Donc ça me fait toujours bien rire quand j'entends dire que c'est un syndicat étudiant, parce que je sais pas combien de chez eux sont réellement étudiants, mais en tout cas voilà, ils reprennent le GUD qui avait été créé dans l'an 68, donc qui avait été célèbre pour ses nombreuses agressions à Paris. Donc c'était des étudiants de la fac Assas surtout, et c'était très violent. Il y avait eu beaucoup de choses. D'ailleurs on a retrouvé beaucoup de GUDards qui ont été présents après dans les gouvernements successifs, à la main de l'un.
Oui, qui ont fait des belles carrières politiques après.
Voilà, bien sûr. Gérard Longuet, le ministre de la Défense, était issu du GUD, donc l'extrême droite, vraiment, vraiment radicale, quoi. Pour l'époque, c'était ce qui se faisait le plus violent, quoi. Et donc le GUD s'est recréé à Lyon il y a 2 ans de ça en arrière. Donc c'est eux qu'on a pu entendre dans la manif pour tous, qui sont allés essayer d'envahir la préfecture à Lyon. C'est eux qui font avec les jeunesses nationalistes souvent le coup de poing. Donc ils sont pas liés. Au début ils étaient plutôt proches les deux. Maintenant on a noté un petit peu d'éloignement, de distance entre les deux groupes. Mais en tout cas ils ont les mêmes modalités d'action quoi. C'est-à-dire c'est occuper la rue, c'est faire des actions coup de poing. Voilà.
Faire parler deux avec des actions.
C'est ça. C'est faire parler deux. Voilà, par des actions médiatiques. Et donc, on a aussi donc les fameuses jeunesses identitaires qui à Lyon ont un local. Donc les identitaires qui sont très férus de métapolitique. Donc c'est-à-dire que voilà, ce sont les fameux qui vont avoir une agence de presse, qui vont avoir des associations de sport, des associations de moto, des associations de soutien de la culture lyonnaise. Ils vont avoir voilà toute une sphère en fait autour d'eux qui ne fait pas voilà réellement de politique, mais qui est quand même politique. Donc eux ils vont pas se mettre voilà, nous on est les identitaires, on fait je sais pas moi, on fait de la distribution de repas au SDF, on est les identitaires, groupuscule d'extrême droite, etc. Non, ils vont dire voilà, nous on est des individus, des Lyonnais qui aimons notre ville, qui sommes révoltés par la pauvreté, du coup on distribue à manger. Mais derrière tout ça, c'est les jeunesses identitaires qui sont devenues Génération Identitaire. C'est eux qui organisent voilà tout ce genre de choses. Ils ont aussi une association qui s'appelle Solidarité Kosovo. Donc en fait qui vient en aide aux Kosovars, voilà, qui sont au Kosovo et ils font des échanges. Voilà, ça c'est encore une manière de faire parler d'eux. Donc pendant longtemps, on savait pas ce qu'était Solidarité Kosovo.
Oui, ce qu'il y avait derrière.
En fait, on s'est rendu compte que c'était qu'ils ont récupéré en fait cette guerre politique donc qu'il y avait là-bas pour pouvoir s'en servir eux en France en disant regardez, on est bien, on va faire du humanitaire, etc. dans des pays étrangers. Voilà ce qui est un petit peu les jeunesses identitaires.
Parce qu'ils font de la politique sans le dire. Ça veut dire que c'est un moyen de recruter, mais est-ce que c'est aussi l'idée d'avoir une pépinière et bientôt des futurs élus dans je ne sais quelle partie d'ailleurs?
C'est leur but hein. Donc on sait que à Nice, par l'intermédiaire de Nissa Rebella et Philippe Vardon, ils se sont présentés donc au municipal à Nice. Et là clairement l'objectif affiché hein. D'ailleurs ils avaient présenté un candidat pour les dernières présidentielles, Arnon Gouillon, qui finalement s'est retiré, mais c'était juste pour dire voilà, on est là, préparez-vous, dans quelques temps on sera présent. Voilà, dès le début, ils savaient très bien qu'ils ne se présenteraient pas. Mais c'était une histoire de
au moins de faire un peu parler
exactement,
d'eux.
De commencer à se montrer. Donc là, on pense que oui, effectivement, ils vont commencer à présenter certaines personnes dans des élections locales.
Municipales, par exemple.
Certainement les municipales, oui, certainement. On verra, mais en tout cas, je pense que ça se refera à Nice et certainement dans d'autres villes, ouais.
Est-ce qu'il y a vraiment une spécialité, si on parlait de Nice, on a parlé de Toulouse, il y a vraiment une spécialité lyonnaise ou dans certaines villes ou
en ce qui concerne jeunesse identitaire spécialement?
Et en ce qui concerne cette multiplication de groupes, cette activité qui a l'air de plus en plus.
Alors ça c'est vraiment l'image de marque des jeunesses identitaires. Donc les jeunesses identitaires, on sait qu'ils sont très présents donc à Toulouse après la fermeture de local, ils se sont dissous, ils ont rejoint les jeunesses nationalistes donc de Gabriac dont on parlait tout à l'heure. On sait qu'ils sont très présents à Nice. Ils sont très présents à Lille, à Paris, par l'intermédiaire du projet Apache pendant un temps, et sur Lyon. Donc en fait, ils retranscrivent ce mode d'action-là dans toutes les villes dans lesquelles ils sont présents. Voilà. Donc les identitaires ne sont pas encore vraiment présents en masse dans toutes les villes, mais en tout cas, ils essayent d'avoir quelques groupes au moins par région, voire par département. Puisqu'ils sont, alors oui, une autre spécificité des identitaires, c'est qu'ils sont régionalistes. Donc en fait, avant d'être nationalistes, d'être patriotes français, etc., ils sont d'abord avant tout régionalistes. Donc c'est pour ça qu'ils marchent énormément par territoire. Donc par exemple, en Isère, leur groupe s'appelle les Maquisards. À Paris, c'est le projet Apache. Donc par rapport aux Apaches, c'était les délinquants du début du siècle dernier. À Lyon, ils ont appelé ça Rébène, puisque Rébène en vieux lyonnais, ça veut dire révolte.
D'accord. Voilà.
Donc c'était la grande Rébène, en fait, c'est la révolte des Canuts. Voilà, en fait, ils essayent de récupérer
ils se raccrochent à des choses historiques qui ont eu lieu sur les territoires et se l'approprient, quoi.
Exactement.
En plus, ils se raccrochent à des symboles qui représentent pas du tout leur idée.
Ah, bah, tout à fait. Surtout à Lyon, quand ils s'appellent Reben, ça fait beaucoup rire tout le monde ou tous les historiens de la ville de Lyon, quoi. Parce qu'ils étaient pas trop à l'extrême droite, les Canuts, mais.
On en a pas reparlé, mais c'est vrai qu'on a voulu faire une émission sur le sujet parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'à Lyon il y a un peu un renouveau et que qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et notamment assez récemment il y a eu plusieurs attaques Il y a eu pas mal d'attaques, alors que ce soit de locaux devant des contre-manifs devant la mairie, d'attaques dans des bars, dans le
tout à fait
dans le Vieux-Lyon. Enfin, si tu peux un petit peu nous.
Après, du coup, donc pour la c'est Lyon a toujours été une ville quand même assez classée à droite, quand même à l'extrême droite. Pour l'extrême droite, ça a toujours été un petit peu un fief quand même, la ville de Lyon. Maintenant, c'est vrai que depuis quelques années, il y a quand même un certain renouveau, notamment. Il y avait beaucoup de groupes comment dirais-je, vieillissants, et ce qui inquiète un petit peu, c'est quand on voit tous ces mouvements de jeunesse en fait qui reviennent, jeunesse nationaliste, jeunesse identitaire, le GUD, donc syndicat entre guillemets étudiant. Là, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui reviennent. Forcément, les jeunes, voilà, aiment bien tout ce qui va être un petit peu plus d'action, etc. Et puis encore une fois, pour quand on voit d'ailleurs tous ces groupes d'extrême droite vont souvent faire des voyages à l'étranger pour voir comment ça se passe. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'à l'étranger, avant tout, les premières choses à faire, c'est des actions violentes, ou en tout cas des actions très médiatiques,
très symboliques.
Très symboliques. Donc eux, du coup, essayent de reproduire ça. Effectivement, on peut noter beaucoup d'agressions, hein, notamment il y a un bar dans le 7e arrondissement où ils passent régulièrement pour faire de la provocation, et voir des moments où ils sont passés au-dessus de la provocation. Je crois qu'il a eu sa vitrine qui a été cassée déjà deux ou trois fois.
C'est quoi, c'est l'autre côté
C'est l'autre côté du pont, tout à fait. Oui, il y a eu des agressions devant son bar. Il y en a eu encore un autre, donc qui est encore un autre bar dans le 7e arrondissement qui s'était fait agresser la même nuit que l'autre côté du pont. À la Croix-Rousse, il y a l'Imca, donc un promptu café qui s'est fait agresser plusieurs fois. Il y a eu le Phébus qui s'est fait agresser. Enfin voilà, il y a eu énormément d'attaques de bars et de personnes aussi, parce que nous on reçoit souvent des mails de personnes qui témoignent de violences, beaucoup de personnes qui témoignent de leur agression. Mais souvent c'est incroyable quand on lit les mails des personnes qui se sont fait agresser, quoi. On lui reprochait d'avoir des dreadlocks par exemple, et donc ça suffit pour qu'il se fasse taper sur la tête, quoi. Ou il y a des petits jeunes qui traînent dans le quartier de Pont de la Croix-Rousse, voilà, juste parce qu'ils ont un petit peu
ils ont la petite dégaine
qui correspond bien pas à l'image que l'extrême droite voudrait avoir de la jeunesse. Ils se sont fait agresser, mais tout simplement comme ça, quoi. Du coup, ça commence à faire peur, quoi, parce que c'est vraiment des agressions simplement aux faciès, quoi.
À la gueule, quoi.
Ah, mais vraiment à la gueule et au style vestimentaire. Donc, c'est quand même assez important, quoi. Ça devient grave.
Il y avait aussi des syndicalistes, non, dans le Vieux-Lyon, qui s'étaient fait attaquer.
Alors ça, c'était un petit peu plus vieux. C'était là que le comité de juin 69 s'était créé. C'était des camarades de la CNT qui sont fait agresser, sortis d'un restaurant, qui sont fait certainement reconnaître, hein, par des fachos, hein, et appelons-les comme ça, et qui sont fait violemment agresser. Hein. Il y a eu plusieurs jours d'ICT, crâne ouvert, fracture de la main, etc. C'était très violent, quoi. C'était très violent. Et puis, du coup, les personnes avaient été disculpées lors du procès, faute de preuves. Mais bon, voilà, c'est sûr que c'est pas nouveau. Ça remonte. Maintenant, on commence à en parler un petit peu plus. Mais cette agression, c'était déjà en 2009, quoi. Donc, ça commence à remonter un petit peu.
Là, tu disais les agresseurs avaient été disculpés, mais il y a des suites, il y a une attitude particulière de la police ou de la justice où ils font ça et personne les embête. Une certaine impunité
C'est un petit peu le constat qu'on a envie d'avoir, parce que je crois qu'on est à pas loin de tout cumuler, donc des agressions recensées, je dis bien, on est à pas loin de 400 jours d'ITT sur toutes les agressions qui ont pu avoir lieu. Il y a eu des agressions qui ont été très 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 violentes. Finalement, on voit qu'il y a très peu de condamnations. Après, moi personnellement, je pense pas que les condamnations soient une fin en soi, loin de là. Mais en tout cas, voilà, si à la question est-ce que on a l'impression que du côté de l'État, etc., ça bouge pas trop. Et puis nous, surtout, ce qu'on déplore et ce que le comité du vent 69 tient vraiment à revendiquer, c'est que on n'est pas dans une guerre extrême droite contre extrême gauche. Ça, c'est quelque chose qui est très très important, que ça soit les services publics, les forces de l'ordre, etc., veulent vraiment renvoyer dos à dos les militants antifascistes et l'extrême droite. C'est pas le cas du tout, puisque les militants antifascistes n'ont pas d'autre chose que de lutter contre l'extrême droite, alors que l'extrême droite va attaquer tout ce qu'ils peuvent attaquer. On a vu pour la manif pour le mariage pour tous, ils vont attaquer quelqu'un qui a une dégaine entre guillemets de hippie, quelqu'un d'autre, donc voilà, tout simplement parce que leur tête ne va pas leur venir, d'autres parce qu'ils seront militants de gauche, d'autres parce qu'ils sont syndicalistes, d'autres parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont noirs, d'autres parce qu'ils sont homosexuels. Eux vraiment, ils vont voilà attaquer tout le monde. Et donc quand il y a des contre-manifs, des fois le comité de juin 69 et les militants antifascistes sont obligés de se protéger. Quand il y a du grabuge, que l'extrême droite attaque, tout de suite dans les journaux on voit la une, c'est l'extrême droite contre l'extrême gauche. Or ce n'est pas vrai, parce que nous, toutes les manifestations ont été pacifistes et jamais violentes, quoi.
Du coup je pense que c'est bien effectivement qu'il y ait un comité, que ce soit un réseau, pour montrer la diversité des gens qui s'opposent aux fachos et à l'extrême droite, quoi. Montrer que ça représente effectivement différents
un
domaines,
panel très large,
ouais, ouais. Exactement, ouais.
Tout à fait.
Et puis ça porte bien son nom de vigilance, parce que là vous êtes là pour être vigilant.
Voilà,
il n'y a pas une question de je vous êtes contre, non, c'est vous voulez empêcher de faire des actions qui sont
exactement, c'est ça le but. Voilà, c'est souvent quand on est militant antifasciste, antisexiste, anticapitaliste, anti-ouvrier, on dit souvent voilà, mais vous êtes tout le temps anti quelque chose. Bon, voilà, c'est un faible argument, mais en tout cas voilà, là le comité du juin 69, c'est vraiment voilà de pouvoir en fait militer toute l'année contre l'extrême droite, mais voilà, sur plein de modalités d'action différentes, qui ne soient pas uniquement dans le anti. C'est aussi d'expliquer, de démontrer tout ce qui se passe.
Yeah.
Alors on est de retour donc avec Pierre du comité Vigilance 69. Moi je voulais faire un point parce que c'est vrai que l'extrême droite là on en a bien réentendu parler avec les avec tout le débat et les manifs donc avec le mariage pour tous et les manifs contre le mariage, ce qu'ils appelaient les manifs pour tous. C'est vrai qu'on a vu du coup l'extrême droite, les cathos orthodoxes. Enfin, il y a eu tout un mélange. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actions. Ça a été assez impressionnant. Et puis même moi, pour avoir été à la dernière manifestation suite au vote de la loi, c'est vrai qu'il y avait une ambiance un petit peu particulière. On disait bon ben voilà, la manif s'arrête, je sais plus, à 22h, mais allez pas vers Perrache parce que là il y a 150 personnes qui vous attendent. Allez vers, et ça faisait une ambiance très particulière à Lyon. Et moi j'avais des gens autour, des jeunes qui avaient plus cette idée de dire bah attention, là on est deux mecs ou deux filles, faut pas se tenir par la main. Les consignes c'était qu'on puisse pas te reconnaître, enfin ouais. Et tu dis tout d'un coup t'es à Lyon et là tu te prends une chape, enfin sur la tête, et tu te dis oui, mais tu t'es jamais posé la question si c'était sûr ou pas comme ville, et là tout d'un coup t'as cette violence qui arrive. Donc si tu peux
C'est sûr que cette loi donc du mariage pour tous, ça a vraiment fait ressurgir les plus profondes haines en fait que les gens avaient à l'intérieur d'eux, quoi, parce que on est habitué de voir l'extrême droite dite traditionnelle, donc en tout cas tous les groupes qu'on connaît manifester, etc. Donc eux, on s'attendait bien à ce qu'ils soient pas enchantés du mariage pour tous, mais là quand on voit des manifestations aussi grandes qu'il y a pu avoir notamment à Paris ou même à Lyon, avec des groupes de catholiques intégristes, mais qui sont vraiment ravagés, quoi, parce que suffit d'aller faire un petit peu un tour sur les écrits de certaines de ces personnes qui étaient présentes et des gens qui prêchent, etc., dans certaines églises, mais c'est incroyable, quoi. C'est, on est autant des croisades.
Ah oui, il y avait des arguments qui étaient
vraiment. Donc là, on a vu ressortir toute cette haine, et finalement bah ça a été bénéfique mais au possible pour l'extrême droite. Donc à l'exception peut-être du Front National qu'on n'a pas entendu parce qu'ils étaient réellement divisés à l'intérieur du FN, mais sinon on a pu voir tous les groupes, que ce soit justement le GUD, les Jeunesses Nationalistes, Jeunesse Identitaire, qui alors là pour le coup d'habitude n'ont pas trop de liens toute l'année, mais là ils se sont tous retrouvés. Et puis on a vu des déferlements de réactions homophobes et lesbophobes jusqu'aux médias, quoi. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde, hein, au bout d'un moment s'est dit bah c'est bon, quoi, maintenant il y a des manifestations de tant de personnes pour dire qu'ils sont contre ce mariage là donc bon bah nous on peut tout lâcher. Et il y a eu des agressions horribles, hein, que ça soit à Lille, un couple d'homosexuels qui se sont fait lyncher, il y a pas d'autre mot, à Nice aussi, à Paris, à Lyon il y a eu plusieurs agressions. On a encore pu il y a une agression qui a été relatée il y a moins d'une semaine sur la place Satonnet, là, donc à deux pas d'ici, où des personnes se sont fait insulter parce que c'était un couple de lesbiennes qui se tenaient la main, elles se sont fait complètement insulter. Donc je veux dire, même des gens qui finalement n'étaient pas militants et de l'extrême droite, etc., alors là d'un seul coup tout le monde a pu
soulever le couvercle, enfin tout a explosé. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de sous-jacent qu'on sentait même plus, enfin qu'on voyait même plus, et tout d'un coup là on a vu que c'était
ça, c'est sûr. Et puis du coup ça donnait aussi l'opportunité à certains groupes de pouvoir recruter aussi, puisque bon bah là il y avait de tout, quoi. Enfin, en plus les manifs allaient vraiment comme on dit, oui, de 7 à 77 ans, quoi.
Ah, il y avait donc les familles, il y avait le service d'ordre, enfin il y avait le GUD, etc., ils faisaient service d'ordre,
Civitas
presque,
aussi, ouais. Mais bien sûr que le GUD a fait Civitas avait fait un appel au GUD pour gérer leur service d'ordre à Paris. Donc je veux dire, c'est quand même énorme comme truc, hein. Ils ont fait appel à une milice en fait, en quelque sorte. Donc c'est particulièrement incroyable. Et puis bon bah tous ces groupes là de jeunes qui finalement allaient faire un petit peu les barbeaux et rouler des mécaniques dans ce genre de manif, bon bah c'était aussi pour eux l'occasion de recruter, parce que du coup les autres groupes de jeunes qu'ils ont pu croiser dans ce genre de manif, d'un seul coup ils ont pu se dire directement ah bah ok, si on est tous les deux là, c'est qu'on a plus ou moins les mêmes idées. Et donc ça a pu leur permettre aussi de se multiplier et de recruter énormément.
C'est vrai que c'est assez rigolo entre guillemets, parce que normalement la droite ou la droite catho. C'est vrai qu'on les voit pas forcément dans la rue. La dernière fois, ça devait être pour l'école privée. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, on a eu l'impression qu'ils réutilisaient presque des méthodes, je sais pas, d'act up ou justement de
tout à fait.
Et qui, du coup, se disaient, bah tiens, on peut nous aussi se réapproprier la rue. Et puis voilà. Et puis comme on prouve qu'on est 200 000 dans la rue, bah c'est nous qui avons raison. Il faut arrêter la loi. Enfin, il y avait des.
C'est sûr, surtout que le. Alors je suis pas friand de sondage, mais l'opinion publique était plutôt pour le mariage. Donc se manifester, donc faire des manifs de 300 000 etc dans Paris, eux de toute façon ils ont entre guillemets ils jouaient leur vie quoi pour eux. Je veux dire c'était leur finale de Coupe du Monde à eux quoi, c'est à dire que voilà
c'est la fin du monde là,
c'était
d'ailleurs.
Voilà exactement quoi, et puis c'était là comme tu le dis tout à fait, c'était leur première manif depuis combien de temps quoi. Je pense que la plupart des gens c'était leur première manif qu'ils faisaient de leur vie, donc ils ont pris tout ce qu'ils avaient à prendre dans tous les petits patelins français etc. Ils ont fait des bus,
il y a eu des moyens,
je pense qu'ils ont fait le plein aussi, ils étaient nombreux mais ils avaient vraiment fait le plein.
Bah oui,
hein. C'était la mobilisation totale.
Et puis les bus étaient payés bien souvent par les associations catholiques, etc. Par aussi certains, mais les partis politiques étaient assez en retrait. Mais il y a aussi certains partis politiques qui ont payé des bus. Voilà, eux, ils ont vraiment fait le plein de tout ce qu'ils pouvaient, avoir. Quoi.
D'ailleurs, on les a vus quand ils contestaient les décomptes. C'était presque s'ils savaient exactement qui était là.
Ah,
ça,
il y avait 12 bus.
Ils avaient déjà compté. Quoi.
Je pense qu'ils avaient des listings exactement.
Ils avaient fait l'appel avant pour être sûr que tout le monde soit là.
Non mais ça c'est sûr. Hein. Donc bon, dans un sens là, on sait que ils avaient tout là. Ils étaient tous là quoi pour ces manifestations là. Mais c'est vrai que, enfin c'est incroyable moi de mémoire parce que ce sont vraiment des manifestations de la haine quoi. Parce que là c'est vraiment des manifestations pour rejeter l'autre quoi. Et en plus ce sont des gens qui se battaient contre une loi dont eux avaient déjà les droits. Puisque je pense
c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est d'avoir 300 000 personnes pour enlever des droits à eux, on leur enlève rien, mais pour que d'autres personnes n'aient pas les mêmes droits que c'est comme à la limite si je sais pas en 50 t'avais manifesté pour que les femmes aient pas le droit de vote quoi, en disant bon bah moi je veux bien voter mais surtout je veux pas que une autre frange de la population ait les mêmes droits que moi, alors que moi on m'enlève rien quoi.
C'est tout à fait ça quoi, c'était particulièrement incroyable de se dire des gens manifestent contre des droits que eux ont déjà. Mais là, j'ai quelque chose que j'arrivais
à
saisir.
Quoi, enfin...
Ouais, j'avais vraiment beaucoup de mal à saisir, quoi. Et puis ensuite, là, voilà, c'était vraiment une manifestation, voilà, de la haine et du rejet, quoi, tout simplement. Et de mémoire, même plus petite, j'en avais rarement vu, quoi, des manifestations comme ça. Et ben voilà, ça a été très bénéfique pour l'extrême droite. Et encore une fois, c'est elle qui récupère tout ça, quoi.
Mais je pense qu'aux autres, ça montre, je pense qu'il y a pas mal de gens, alors qu'ils soient gay, lesbienne ou homo ou même hétéro, enfin il y avait des sujets on se disait bah ça c'est derrière nous, ça c'est réglé, bah ça les droits tout le monde est d'accord etc, et là ça montre quand même que c'est pas, il y a pas que des personnes d'un certain âge qui sont contre, il y a des jeunes, enfin moi ça m'a permis de me rendre compte, de dire il y a peut-être des combats qu'on voilà, on n'était plus forcément militants, on était dans le festif. Et là, si, il y a encore.
Et
y a
puis
encore
ça permet de se rendre compte aussi que l'extrême droite, que facho, ne veut pas dire raciste. C'est-à-dire que voilà, l'extrême droite, c'est pas le racisme, c'est pas combattre le racisme. Combattre l'extrême droite, c'est combattre tous les rejets, quoi. Et l'homophobie en fait grandement partie. Et d'ailleurs, moi, je considère que le sexisme est aussi à englober là-dedans, parce que voilà, on a toujours eu l'image, voilà, avec SOS racisme, etc., que l'extrême droite c'était le racisme. Non, c'est totalement faux. Et d'ailleurs, je pense que l'extrême droite se rend de plus en plus compte que finalement, voilà, faut pas attaquer que sur cette affaire-là de la souche, etc., de la couleur de peau. Parce qu'en plus, quand on attaque sur la couleur de peau, on se fait traiter de facho, etc. Si jamais on attaque sur autre chose, on se fait pas traiter de facho, puis en plus, on touche un public beaucoup plus large. Donc, ça aussi permis de se rendre compte à certains et certaines que, bah voilà, que l'extrême droite c'était pas uniquement le racisme.
Et que tu pouvais un jour être concerné parce que tu vas être pour une raison ou une autre différent.
Exactement.
Et ce sera toi le prochain sur la cible.
Tout à fait.
Mais par contre, tu disais effectivement, on a vu que ça a donné quand même un regain à l'extrême droite, ça a certainement permis de recruter. Mais on a senti aussi une gêne aux entournures de la part de certains qui voulaient quand même être respectables, même s'ils sortaient dans la rue. Donc, quand on parlait d'amalgame tout à l'heure.
Alors, ce que tu veux dire, c'est que c'est il y avait donc des on va dire entre guillemets les initiateurs de la manif pour tous.
Voilà, il y avait les dames patronesses, elles pouvaient se sentir un peu gênées.
Et ça les défrisait. Mais... Alors moi je suis pas totalement d'accord avec ça parce que déjà le discours qu'il y allait avec ces gens-là, il est très facile de dire ah non mais nous le GUD on se reconnaît
mais
pas.
Mais c'est un discours que les médias ont pas mal véhiculé. Là, attention, en fait il y a des gens qui se sont raccrochés à la manif mais c'est pas les mêmes. C'est un discours qu'il faut aussi dénoncer.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les médias, voilà, moi à chaque fois que je regarde un reportage sur l'extrême droite, mais je me demande qui a fait ce reportage et comment il a pu le faire parce que j'entends des choses qui sont totalement fausses. Et ben voilà, là c'est un petit peu la même chose. Moi quand je vois Frigide Barjot qui à la fin de la mobilisation parce
qu'elle était bien contente que ça fasse du nombre aussi.
Ouais, voilà, la mobilisation elle a duré 3-4 mois. C'est la seule fois où elle a dit je veux pas du GUD, c'est quand elle était à Lyon. Donc pour leur dernière manifestation. Donc c'est bien gentil de dire ça à la fin, etc. Parce que finalement, bah, elle oblige pas Frigide Barjot qu'elle a une image publique et qu'au bout d'un moment, déjà qu'elle fait pas grand chose depuis pas mal d'années, bah, au bout d'un moment, il va peut-être falloir qu'elle fasse peut-être quelque chose avec son image publique. Bon, elle a pas envie d'être attachée à l'extrême droite, etc. Donc finalement, à la fin, elle va dénoncer tout le monde. Mais elle était bien contente de les trouver jusque-là. Et les premières agressions qu'il y a eu en marge des manifs pour tous, c'était au début, quoi. Où le GUD ou Civitas, ils étaient tous là. Les jeunesses nationalistes, les jeunesses identitaires, certains du Front National, ils étaient tous là. Et là, par contre, elle disait rien, quoi, au début, parce que ça faisait le nombre, c'était bien, ça faisait parler, etc. Donc moi, je trouve qu'en fait, l'hypocrisie vient réellement de leur côté. Mais tu as raison de dire qu'il faut le souligner, parce que c'est l'image qu'ils ont vu donner dans les médias. Ils disent, ah, nous, on n'est pas l'extrême droite. Ouais, alors les propos que vous sortez, ils y ressemblent beaucoup pourtant.
Ouais, t'avais des trucs vraiment très très extrêmes et très vraiment très haineux, quoi.
Moi j'ai entendu le terme d'accouplement sodomie plusieurs fois.
Ah oui, mais t'as eu sur la zoophilie, enfin t'as eu des arguments qui étaient vraiment.
Je veux dire, si ça c'est pas des propos qui relèvent du fascisme, enfin voilà.
Ou d'un autre temps, quand tu parlais qu'on se croyait aux croisades.
Ouais, non mais voilà, ou d'un autre temps quoi. La coupe en sodomite, où effectivement, un jour la zoophilie, c'est quand même un petit peu, c'est quand même incroyable quoi.
C'était de la sorcellerie.
On n'a pas brûlé en place publique, mais c'était pas loin. Ouais.
Non, mais c'est sûr, c'était un déferlement de haine, quoi. Pendant 3 mois, c'était incroyable.
Et vous avez donc eu des actions particulières, justement, parce que ça crée une actualité.
Alors, nous, on a. Le comité 69 s'est joint donc, aux associations LGBT. Et donc lesbiennes, gays, bi et trans on a mené des actions conjointes en fait avec les associations LGBT notamment la dernière celle dont tu parlais tout à l'heure où tu t'étais rendu cette journée là cette mobilisation là c'était organisée conjointement entre les associations LGBT et le comité du 69. La manif, alors j'ai plus la date en tête hein, parce que ça en fait beaucoup, mais donc la manif contre la manif pour tous, hein, parce que donc il y a le mariage pour tous et la manif pour tous. Mais là, encore une fois, on vient toujours là-dedans, quoi. C'est que l'extrême droite veut jouer sur l'ambiguïté tout le temps. Donc la manif qui était contre le mariage, ils l'ont appelé la manif pour tous.
Ou pour les enfants aussi, il y avait
pour les enfants,
ouais.
Mais bon, ouais. Enfin, en tout cas, le gros terme, c'était vraiment la manif pour tous. Donc du coup, quand il y avait une manif qui s'était organisée en réaction à la manif pour tous, la manifestation avait été organisée toujours conjointement entre les associations LGBT et le comité du 69. Voilà, on a essayé d'être très proche en fait sur cette question-là pendant toute la durée en fait du vote de la loi. Donc voilà, nous on a toujours été avec eux, quoi. On n'a pas fait des choses Vigilance 69 tout seul. On pensait bien d'être avec les associations LGBT. I'm leaving here on the morning train. And I will never see this world. And if all
On est toujours sur le grain de sable sur Canu avec Pierre du collectif Vigilance 69. Donc pour terminer, on va aussi parler des actions en cours. On disait tout à l'heure, il peut y avoir des manifs ou des rassemblements d'extrême droite sur lesquels vous et des militants antifascistes interviennent en faisant également des rassemblements ou des manifs. On sait que c'est des choses où on peut se faire arrêter, se retrouver en garde à rue. Donc il y a un communiqué en ce moment. Donc il y a aussi le côté assistance à des gens qui peuvent se retrouver.
Alors ce qui s'est passé, on peut faire un lien rapidement. Tous les 9 mai, l'extrême droite organise des rassemblements à Paris. Donc en fait, en mémoire à un de leurs militants qui s'appelait Sébastien Desieux. Sébastien Desieux, en fait, c'était un militant de l'œuvre française, qui est à la suite d'une manifestation organisée par le UD contre l'impérialisme, s'est fait poursuivre par la police et monté sur un toit. Il est tombé du toit. Enfin, pas exactement. Il est tombé d'un étage à l'autre. Et cette personne est décédée. Et donc, tous les ans, depuis 1995, l'extrême droite organise des manifestations sur Paris. Cette année.
Il commémore, en fait.
Il commémore, voilà. Donc, mais vraiment par une manifestation, où tous les groupes passent les uns après les autres, etc. Et cette année, les Lyonnais ont eu la bonne idée de vouloir organiser sur Lyon. Donc, des premiers, donc les jeunesses nationalistes d'Alexandre Gabriac, l'homme au bras tendu, organisaient donc eux ça devant la statue de Jeanne d'Arc à Foch, dans le 6e arrondissement de Lyon. Le GUD organisait ça à Fourvière. Donc les deux rassemblements n'étaient pas déposés, bien qu'Alexandre Gabriac disait que son rassemblement était déposé. Là-dessus, des antifascistes se sont dit, bah voilà, nous on trouve pas normal que l'extrême droite se rassemble pour commémorer la mort d'un nazi. D'autres nazis vont se mettre dans les rues, etc. Non, c'est pas normal. Donc les antifascistes ont décidé eux-mêmes d'organiser une manifestation et un rassemblement pour dire non et pour dire c'est pas normal. La manifestation antifasciste s'est fait réprimer. 24 militants antifascistes ont été emmenés en garde à vue pour 24 heures pour 19 d'entre eux et elles, et pour 6 autres 48 heures de garde à vue. Et donc ont une convocation au tribunal. Donc ces gens-là vont passer en procès pour protester contre des nazis. Donc
48 heures de garde à vue pour une manif sauvage.
Pour une manif sauvage, tout à fait. Alors, ce qui pose question, c'est deux choses.
Et de l'autre côté, personne n'a été.
Ben voilà, c'est ça qui me pose question, c'est que de l'autre côté, on a deux manifestations organisées par des nazis. On peut pas dire d'autre chose. Hein. Ce sont des gens qui font des saluts nazis, etc., qui sont de vrais nazis. Pour la plupart, qui ont des croix gammées tatouées, sont des nazis. Ils organisent le même mode d'action que les antifascistes, sauf que eux n'ont jamais été inquiétés. Une autre chose se passe quelques jours avant à Paris pour le 1er mai on commémorait donc la mort d'un jeune d'origine algérienne qui avait été jeté dans la Seine par des militants du Front National suite à la manifestation du Front National. Donc il y avait une commémoration qui était organisée à Paris. Le CAPAB, qui est le collectif antifasciste Paris banlieue, avait décidé donc de se joindre à l'organisation de cette commémoration. Sur le coup des donc la commémoration était à midi. Sur le coup des 11h30, une horde de 40 fascistes débarque, agresse tout le monde. Donc là, la manifestation des antifascistes était déposée, hein, en préfecture et tolérée par la mairie de Paris et par la préfecture. Là, une horde de fascistes débarque, agresse à coups de couteau, de batte de baseball, etc., les militants antifascistes. La police arrive, la police encercle les militants antifascistes et laisse repartir les fachos qu'ont agressés.
Mais il est protégé.
Voilà. Donc ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, une semaine avant, à Paris, on a des... mais pas qu'antifascistes, hein, aussi des gens, citoyens lambda, qui disaient, voilà, on va commémorer, la famille était du défunt était là, etc. Ils se sont dit, voilà, on va commémorer, comme tous les ans, la mort de notre ami. Eux, ils déposent, ils se font attaquer, les fachos qui attaquent ne sont pas arrêtés. À Lyon, les fachos ne déposent pas de manif, des antifascistes manifestent, c'est les antifascistes qui sont arrêtés. Alors qu'ils n'avaient commis aucune violence, les antifascistes. Alors qu'à Paris, les fachos avaient... Donc, des moments, on se pose des questions, quoi. On se dit, il y a deux poids, deux mesures, quoi. C'est comme ça. On sait que il faut pas forcément attendre de l'aide des pouvoirs publics et c'est bien malheureux, mais bon.
Il faut être vigilant.
Il faut être vigilant. Il faut continuer le travail de terrain et leur barrer la route tant que possible.
Pour vous suivre, donc il y a ce communiqué, donc vous attendez une suite, ou du moins organiser un soutien.
Exactement, vraisemblablement le jour du procès des camarades antifascistes, un rassemblement de soutien sera organisé, et surtout on interpelle la préfecture, la mairie et tous les pouvoirs publics pour dire voilà pourquoi.
Et ils vous ont déjà répondu ?
Non, pas encore.
Voilà, et on pourra suivre tout ça sur votre blog.
On mettra le lien
sur les deux sites où vous pouvez télécharger les émissions.
Les grains de sable.
Voilà.
À dans deux semaines. Et merci à Pierre.
Beaucoup. Au revoir, merci à vous.